Radio L'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Anne Albertson en ce lundi 14 avril 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le fil conducteur ce matin, les électeurs de Guinée-Bissau ont voté hier dans le calme pour tourner la page des coups d'État.
Tout le monde a fait l'exercice de la violence, agression. Tout le monde a fait l'exercice pacifique.
Le journaliste Lassana Kassama en Centrafrique, nouveaux affrontements entre des militaires tchadiens et des anti-balaka dans le nord. Au Nigeria, une soixantaine de personnes tuées dans de violentes attaques dans plusieurs villages. À l'international, Moscou sévèrement critiqué au Conseil de sécurité de l'ONU en raison de la crise dans l'est de l'Ukraine. Et dans la partie magazine, gros plan sur les expulsions d'étrangers du Congo-Brazzaville vers la RDC.
Nous vivons dans l'enfer depuis que l'opération a commencé. Ceux qui ont été arrêtés, ils ont vu être brutalisés, tabassés.
Ces plaintes et grincements de dents sont le lot quotidien des ressortissants de la RDC.
Et voilà pour le contenu qui comprend bien entendu les sports et la musique. Après trois reports, les élections présidentielles et législatives ont finalement eu lieu dimanche en Guinée-Bissau, Anne.
Oui, les Bissau-Guinéens sont sortis en masse hier pour élire un nouveau président ainsi que leurs députés. C'est le premier scrutin depuis le coup de force survenu juste avant le second tour de la présidentielle en 2012. Aucun incident majeur n'a été signalé. Après la fermeture des bureaux de vote, Chérubin Dorsil a joint le journaliste Lassana Kassama.
Les Guinéens ont voté paisiblement dans la présence d'approximativement 205 membres de l'Observatoire international. Pour l'intérieur du pays, il a été vérifié que ce moment, d'après la loi électorale, toutes les tables d'assemblée de vote sont contenues, excepté dans quelques cas en Bissau. Cette élection présidentielle avec 13 candidats et législative avec 15 partis politiques.
Il n'y a eu aucun incident, tout s'est passé dans l'ordre.
Tout le monde a fait l'exercice de la violence, agression. Tout le monde a fait l'exercice pacifique de la droit de vote.
Quand est-ce qu'on aura les premières tendances?
Selon la commission électorale, cette fois, on peut connaître les résultats provisoires dans 3 jours.
Est-ce qu'on peut dire que ces élections marqueront le retour à la démocratie en Guinée-Bissau?
Oui, c'est vrai. Elles marquent le terme de 2 ans de la période de transition.
La commission électorale n'a pas publié de chiffres quant au taux de participation?
Pas encore.
C'était notre confrère Lassana Kassama, joint à Bissau.
En République centrafricaine, de nouveaux heurts ont été signalés hier entre des militaires tchadiens de la MISCA et des anti-balaka dans le nord du pays. Incident survenu alors que le contingent tchadien se retirait vers le Tchad avec des civils musulmans de Bossangwa. Selon une source locale, les accrochages ont eu lieu à Boguila, un village au nord du pays. Le point avec Darina Naidu.
Selon des sources locales, l'intensité des tirs a obligé de nombreux habitants de Boguila à fuir en brousse ce dimanche. Le convoi des militaires tchadiens escortant plus de 500 musulmans de Bossangwa en fuite vers Gorée dans le sud du Tchad a été pris à partie par les miliciens. La riposte a été très violente, a affirmé un témoin, mentionnant également des blessés pris en charge par les agents de Médecins sans frontières. Depuis le début du retrait des soldats tchadiens de Centrafrique, plusieurs centaines de musulmans se sentant menacés dans le nord plient en même temps leurs bagages. Par ailleurs, le calme est revenu à Bria, une ville du nord-est. De violents affrontements avaient opposé jeudi dernier des membres de l'ex-Séléka aux éléments des forces internationales. 2 soldats de la RDC avaient été blessés au cours des accrochages. Après une réunion d'urgence organisée par le comité des sages et le comité de la médiation de la localité, regroupant les responsables des forces internationales et ceux de l'ex-Séléka, une partie des ex-rebelles est pour le moment cantonnée.
Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 60 personnes hier dans plusieurs villages du nord-est du pays. Un responsable local a accusé le groupe islamiste Boko Haram d'être à l'origine de ces attaques. Les assaillants disposaient de 4x4, de motos et de 2 véhicules blindés, selon lui. D'autres sources locales ont confirmé l'attaque, sans toutefois donner de bilan. De nombreux habitants de la région se sont enfuis par peur d'une nouvelle attaque.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est à Dakar depuis hier pour une visite d'État de 2 jours. Il doit s'entretenir ce lundi matin avec son homologue sénégalais Macky Sall. Mais rien n'indique si les deux chefs d'État aborderont la situation de l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, réfugié au Sénégal depuis 2 ans et menacé de poursuites au Mali. Monsieur Keïta s'adressera aux députés sénégalais cet après-midi. Mardi, il se rendra à Gorée, île symbole de la traite négrière, avant de visiter le Grand Théâtre National de Dakar et de rencontrer la communauté malienne.
En Guinée, un comité interministériel assure que la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas évolué depuis quelques jours. Les autorités guinéennes entendent même faire examiner le bilan par les experts internationaux. Dans les zones touchées, les équipes techniques procèdent à une prise en charge rapide des malades. De Conakry, correspondance de Zakaria Camara.
La progression de l'épidémie se stabilise, affirment les autorités guinéennes. Pas un seul nouveau cas depuis quelques jours. Il est temps de réévaluer le nombre de personnes atteintes du virus Ebola, a dit au journaliste le docteur Sakuba Keïta, directeur du service national de prévention des maladies.
Pratiquement, nous n'avons presque pas de nouveaux cas. Et même les cas identifiés, nous sommes en train de les revoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été ramassés au début, qui ne répondaient pas tellement aux critères. Comme nous avons maintenant beaucoup de spécialistes et nous avons leur dossier et ils sont en train de se prononcer sur ces cas. Et à l'issue de ça, nous pourrons vous communiquer des chiffres proches de la vérité.
Des chiffres, oui. 1,5 million de dollars seront débloqués par le gouvernement guinéen pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Sur le terrain, la sensibilisation et la prise en charge restent des priorités, comme le confirme le docteur Sakuba Keïta.
Aujourd'hui, nous avons tous les contacts identifiés et nous avons mis en place un mécanisme de suivi qui fonctionne. Nous avons déjà des acquis importants vis-à-vis de la prise en charge de malades qu'on détecte. Nous disposons 5 centres d'isolement à l'intérieur du pays qui fonctionnent correctement avec des gens bien formés et tous les équipements nécessaires pour la prise en charge des cas.
Des cas suspects qui se chiffrent à 156 dans tout le pays. Conakry, la capitale, en compte 30 et 10 décès. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a été sévèrement critiquée au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence dans la nuit d'hier pour évoquer la situation dans l'est de l'Ukraine. Là où l'escalade militaire se poursuit, les forces spéciales ukrainiennes et les milices pro-russes ont échangé des tirs dimanche dans la ville de Sloviansk. Des affrontements qui ont fait des victimes dans les deux camps. Jean-Roger Billon.
Kiev a annoncé la mort d'un officier, au moins 5 soldats ont été blessés. Un militant pro-russe a également été tué dans la fusillade et l'on dénombre 2 autres blessés. La crise est survenue après la prise d'un poste de police de Sloviansk et d'autres installations gouvernementales dans les villes russophones de Donetsk et Kramatorsk. Un manifestant pro-russe a plaidé pour que le président Vladimir Poutine envoie des troupes pour soutenir les Russes vivant dans l'est de l'Ukraine. Nous sommes les habitants de la ville de Sloviansk, dans la région de Donetsk. La garde nationale est ici. Il y a eu un échange de tirs ce matin. Nous n'avons rien à cacher. Voici mon visage. Je m'adresse au camarade Poutine. Vous avez promis de nous protéger. S'il vous plaît, venez ici afin de nous protéger. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a déclaré qu'il était extrêmement préoccupé par la montée des tensions dans la région. Il a décrit une campagne de violence orchestrée par les séparatistes pro-russes qui cherchent à déstabiliser l'Ukraine. Les États-Unis ont averti qu'il y aurait d'autres conséquences au-delà des sanctions déjà imposées à l'encontre des responsables russes si Moscou n'apaise pas les tensions dans l'est de l'Ukraine. Pour la Russie, la crise a été causée par le gouvernement de Kiev qui ignore les besoins et intérêts légitimes de la population russophone dans l'est de l'Ukraine.
En Afghanistan, la commission électorale indépendante a publié les premiers résultats partiels de la présidentielle du 5 avril. L'ancien ministre des Affaires étrangères Abdullah Abdullah devance l'ancien ministre des Finances Ashraf Ghani de 4% des voix. Chérubin Dorsil.
Selon la commission électorale, plus d'un demi-million de bulletins ont été comptés sur un total de 7 millions. Les résultats partiels préliminaires donnent 42% à Abdullah Abdullah, tandis qu'Ashraf Ghani obtient 38%. Ahmad Youssouf Nouristani est le président de la commission. Affirmant que des cas de fraude ont été enregistrés en certains endroits, M. Nouristani promet de publier seulement des résultats conformes à la vérité des urnes. Ceux annoncés dimanche ne reflètent que 10% de bureaux dans 26 des 34 provinces de l'Afghanistan, ce qui donne de l'espoir à Ashraf Ghani. Nous n'avons joué que 10 minutes dans un match de 100 minutes. Donc, comme le président de la commission électorale l'a dit, les résultats vont changer chaque jour, tous les deux jours, tous les trois jours, a dit le candidat. Le vainqueur succédera au président Hamid Karzai, qui a dirigé l'Afghanistan pendant plus de 12 ans. Ce sera la première transition démocratique dans ce pays ravagé par la guerre.
En Irak, au moins 7 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un point de contrôle à Kirkouk, dans le nord-ouest du pays. 11 autres personnes ont été blessées dans l'attaque, dont la responsabilité n'a pas été revendiquée pour l'heure. Les violences en Irak sont alimentées par le mécontentement de la minorité sunnite et le conflit en Syrie voisine.
Réunion de printemps des instances de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international, FMI, le Congrès américain a été sèchement invité à ratifier la réforme du FMI. Camille Gros-Didier.
Au terme de leurs entretiens ce week-end, les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont confirmé que l'économie mondiale se redresse, mais reste fragile. Ils se sont engagés à œuvrer pour promouvoir la croissance et mitiger le chômage, qui reste obstinément élevé dans nombre de pays, y compris aux États-Unis. Bien que le taux d'inflation reste faible dans les pays industrialisés, les experts ont rappelé que certaines économies avancées pourraient souffrir de déflation. Par ailleurs, dans leur communiqué final, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se sont déclarés profondément déçus du retard persistant dans les réformes des quotes-parts et de la gouvernance du FMI arrêtées en 2010, un projet de réforme qui vise à donner plus de poids aux pays émergents tout en augmentant les ressources du fonds. Le Congrès des États-Unis refuse toujours d'approuver la mesure. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le FMI demeure une institution solide qui dispose de ressources adéquates, ont ajouté les ministres dans leur communiqué. Si les réformes de 2010 ne sont pas ratifiées d'ici la fin de l'année, nous demanderons au FMI de s'appuyer sur ses travaux existants pour proposer les mesures envisageables.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes branchés sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Direction Congo-Brazzaville, l'opération de police baptisée Mbataya Bakolo, entendez la gifle des aînés, pour assainir les quartiers populaires, a récemment provoqué des protestations de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, où on dénonce la brutalité avec laquelle ces expulsions sont menées. Mais sur place à Brazzaville, les populations estiment que cette opération pourra réduire considérablement le taux de criminalité. De Brazzaville, le reportage de Nguela Ngusu.
Nous vivons dans l'enfer. Depuis que l'opération a commencé, ceux qui ont été arrêtés, ils ont vu être brutalisés, tabassés.
Ces plaintes et grincements de dents sont le lot quotidien des ressortissants de la RDC, notamment le réfugié demandeur d'asile, qui estime que cette opération est directement dirigée contre eux. Jacques Ntabarouchouin, porte-parole de ces réfugiés, réclame la protection de la République du Congo.
Nous avons le gouvernement congolais qui doit nous protéger. Nous n'avons plus un autre pays. Mais quand les policiers sont là pour nous brutaliser, déchirer notre document, nous vivons dans la peur.
Après avoir protesté depuis Kinshasa, les autorités de la RDC sont venues à Brazzaville pour discuter de la question. Tunda Yakasende est vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC.
Nous, à partir de Kinshasa, nous avions des informations qui indiquaient que les ressortissants de la RDC étaient brutalisés à Brazzaville, que certains étaient blessés, qu'ils étaient dépossédés de leurs biens. La hiérarchie nous a envoyés donc à Brazzaville pour s'enquérir de la situation.
Balayant d'un revers de la main toutes ces rumeurs, le colonel Jules Mukalatsumu, directeur de la sécurité publique et porte-parole de la police, déclare.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 100 ressortissants de la RDC qui ont été expulsés. Cette expulsion a eu lieu le 5 au lendemain du déclenchement de l'opération et elle s'est faite de concert avec les autorités de l'ambassade de la RDC. Il se trouve que bon nombre de sujets de la RDC qui se savent en situation irrégulière ont volontairement quitté la ville de Brazzaville et se sont retrouvés à Kinshasa. Malheureusement, ils ont dramatisé certaines choses. L'opération n'est pas destinée à mettre hors du territoire congolais les ressortissants de la République démocratique du Congo. D'autres citoyens qui ont été interpellés, soit parce qu'ils ont été reconnus comme étant auteurs de certaines exactions sur les populations congolaises, ou alors parce qu'ils ne sont détenteurs d'aucun titre de séjour dans notre pays.
Pour la police nationale, Mata Ebakolo a reçu l'adhésion des populations de Brazzaville et va bientôt se poursuivre à Pointe-Noire. Nguela Ngusu, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
L'heure de retrouver nos témoins de l'actualité en République démocratique du Congo, c'est la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes.
Arrêtez aux journalistes et citoyens de Béni pour la voix de l'Amérique. Paul Sadala, alias Morgan, chef milicien de Mai Mai Simba, serait rendu samedi 12 avril matin aux forces armées de la RDC. Sa reddition aurait eu lieu devant des autorités coutumières de Badengaïdo, situé à 300 km au sud-est de Bunia, en Ituri, province orientale. Certaines sources du gouvernement de la province orientale ont confirmé cette nouvelle quelques heures avant la rencontre entre Morgan, les autorités provinciales et la mission onusienne en RDC Monisco. D'autres sources de FARDC et celles des autorités civiles en territoire de Mambasa indiquent que Paul Sadala Morgan s'est rendu avec 42 combattants de ce groupe armé. Son transfert à Bunia avec tous ces hommes qui se sont rendus aurait été en train d'être planifié. La milice de Morgan a commis plusieurs exactions contre la population civile dans le territoire de Mambasa, province orientale.
Kalemi Peter Chaba pour La Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est la tenue ce vendredi de la télé d'information et de sensibilisation sur le projet PADIR, projet d'appui au développement des infrastructures rurales province du Katanga. Cet atelier qui a réuni plus de 50 participants issus des services étatiques, ONG locales et d'autres organismes de développement a lieu dans la salle polyvalente de l'hôtel Beach Moussalala. Objectif, faire l'état d'avancement de ce projet une année après son démarrage dans cette partie de la province du Katanga. Il s'agit d'un projet de 5 ans, financé à hauteur de 80 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement. PADIR, qui a démarré au mois de décembre 2012, va prendre fin au mois de mars 2017. PADIR entend réhabiliter 400 km de route dans la province du Katanga. Plus de 200 km se trouvent dans le district du Tanganyika. Ces axes ont été retenus pour leur intérêt d'évacuation des produits ouvriers vers le centre de consommation.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Au Mali, le président Ibrahim Aboubacar Keïta a nommé les membres du gouvernement dirigé par le nouveau Premier ministre Moussa Mara, une équipe de 31 ministres contre 35 dans la précédente. Pas de changement majeur dans sa composition, hormis l'arrivée remarquée à la tête du ministère de la Réconciliation nationale de Zahabi Ould Sidi Mohamed, un arabe natif de Tombouctou à Bamako, Kassim Traoré.
Une équipe gouvernementale sans chamboulement, 31 membres, 8 nouveaux rentrants, 10 sortants, 23 restants parmi lesquels le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mahamane Babi.
Nous avons parlé des principes qui vont guider le travail gouvernemental, notamment la loyauté envers le président de la République et le gouvernement, la transparence dans tout ce que nous faisons, la rigueur, que notre travail soit guidé par le projet présidentiel, que nous sachions que nous sommes là pour servir les intérêts des Maliens.
Les généraux Moussa Sinko Koulibaly de l'administration territoriale et Abdoulaye Koumaré de l'équipement ne font plus partie du gouvernement. Mamadou Camara, l'ex-directeur du cabinet du président Ibeka, est devenu ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication.
C'est une proposition qui avait été faite déjà en septembre 2013, au moment de la formation du premier gouvernement. J'avais estimé à l'époque, en accord avec le chef de l'État, qu'il était peut-être un peu tôt. Et 7 mois après, il a souhaité que cette fois-ci, je puisse prendre en charge le département de la communication et des nouvelles technologies.
Ndiaye Aramatoulaye Diallo, nouvelle rentrante, elle s'occupe de la culture.
Nous avons un grand patrimoine culturel que je compte essayer de mettre en valeur, l'utiliser justement comme un grand outil d'influence pour la paix. Parce que pour la paix, il faut déjà la maîtrise de la culture malienne.
Un dinosaure de la scène politique malienne fait son entrée dans le gouvernement. Il s'agit de Maître Moutaga Tall, président du SNIL Faso Iriwaton.
Concertation, action, résultat, collégialité pour tous les ministres. Et de façon visible.
Mais de continuer à servir le Mali
Lila ou Olin, quelle que soit la place, continuent à servir le Mali. C'est la seule ligne, le seul credo.
Désormais, le gouvernement malien compte 5 femmes contre 4 pour l'équipe sortante. De quoi faire réjouir la ministre de la Femme, Sangaré Oumouba.
Je suis particulièrement heureuse d'avoir un nombre plus élevé de femmes au niveau du gouvernement. Un de nos combats, nous allons travailler dans le sens du programme du président de la République.
La nouvelle équipe gouvernementale n'a pas connu de grands changements. Elle doit travailler pour répondre à l'attente des milliers de Maliens qui l'attendaient avec impatience. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burundi, le gouvernement dément distribuer des armes aux jeunes du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Accusation faite dans un rapport onusien et qu'ont publiquement récusé les ministres de la Sécurité publique, de la Justice et de la Défense nationale. Quant à l'opposition et la société civile burundaise, elles affirment que le document du bureau de l'ONU est venu confirmer leur dénonciation à l'approche des élections générales prévues en 2015. De Bujumbura, le compte-rendu d'Éric Manirakiza.
Une bonne nouvelle, ils ont pris ça mais avec beaucoup de patience parce que le Nigeria a profité, si vous voulez, du balbutiement de l'économie sud-africaine pour rebondir un peu. Mais on prend ça avec prudence, beaucoup de prudence au Nigeria parce que ça n'a pas un impact sur la population. Un impact au niveau économique et un rebondissement, d'accord. Mais au niveau social, le reflet se fait encore attendre. Peut-être que ça va venir avec le temps, mais pour le moment, on prend ça avec hésitation, quoi.
Justement, la plus récente enquête de la Banque mondiale sur la pauvreté dit que 61% des 170 millions de Nigériens vivent avec moins d'un dollar par jour. Comment cela peut-il s'expliquer pour un pays si riche?
C'est exact. C'est-à-dire, le problème au Nigeria, c'est parce que le fossé entre le politique et le social est très, 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 très large. À tel enfin que la masse paysanne ne bénéficie pas de cet embaumement de l'économie. Et il n'y a que le niveau politique, c'est-à-dire que les hommes politiques qui en profitent et qui en font de là leur propriété. Il faut être dans un cercle bien déterminé pour pouvoir en profiter de cette économie. Ben sinon, le reflet est vraiment, vraiment, vraiment insignifiant sur le côté social.
On a vu que la récente question de la disparition des milliards de dollars des fonds de la compagnie pétrolière nationale nigériane a donné lieu à une vive controverse, avec notamment le limogeage du gouverneur de la Banque centrale. Où en est cette question aujourd'hui?
Lettre-morte, parce que vous savez, quand c'est du politique, une fois que les faits sont établis, ça devient lettre-morte. Les gens sont tellement habitués à ce scénario que personne ne s'en occupe et ça ne dérange plus la masse paysanne. On entend dans la presse, dans les journaux, ça fait un boom, 2 ou 3 jours, tout le monde en parle et puis après ça passe lettre morte.
Et voilà, vous l'aurez compris, c'était pas le reportage de notre correspondant Éric Manirakiza à Bujumbura, c'était plutôt un sujet qui concernait le Nigeria qui est devenu la première économie du continent africain avec un produit intérieur brut d'environ 490 milliards de dollars, devançant l'Afrique du Sud. Et on écoutait Maître Hassan Silas, avocat à Lagos, il répondait aux questions de Timothée de Longmaille. L'heure maintenant de passer en revue l'actualité sportive. Nous retrouvons Jean-Roger Billon. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Football, Coupe d'Afrique des Nations 2015, le coup d'envoi a été donné ce week-end.
Oui, avec le tour préliminaire, un seul match à l'affiche, Mauritanie-Maurice, c'était samedi. Victoire minima de la Mauritanie, 1-0 à Nouakchott. L'unique but de la partie est arrivé à la 23e minute sur un magistral coup franc à l'entrée de la surface de réparation de l'attaquant de Bastia, Adama Ba, dont la frappe de gauche est allée se nicher dans la lucarne du but mauricien. Le match retour est prévu dans 8 jours à Port-Louis et il s'annonce difficile pour les Mourabitoun, car cette fois les Mauriciens seront devant leur public et opteront pour une stratégie résolument offensive. Un deuxième match dans le cadre de ces préliminaires était programmé entre l'Érythrée et le Soudan du Sud, mais les Érythréens se sont retirés comme ils l'ont régulièrement fait depuis 2007. Le Soudan du Sud est donc qualifié pour le tour suivant. Au total, ce sont 142 matchs en 7 mois pour ces éliminatoires de la CAN 2015 qui permettront au soir du 19 novembre 2014 de connaître le nom des pays qui vont se joindre au Maroc pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février 2015. Le tirage au sort des phases éliminatoires, le deuxième tour et le troisième, ainsi que la phase de groupe se déroulera le dimanche 27 avril 2014 au Caire, soit dans 2 semaines.
Et en athlétisme, Jean-Roger, les Kenyans raflent tout au marathon de Londres.
Le coureur kenyan Wilson Kipsang a remporté son 2e marathon de Londres après celui de 2012, hier dimanche. Il en a profité pour battre le record de l'épreuve en 2h 4 minutes 29 secondes, améliorant l'ancienne marque de 11 secondes au terme d'un sprint sur le mall, l'avenue menant à Buckingham Palace. Kipsang était déjà détenteur du record du monde depuis le marathon de Berlin en 2013, qu'il avait bouclé en 2h 3 minutes 23 secondes. Et chez les dames, c'est Edna Kiplagat, une Kenyane aussi, qui a raflé la mise en 2h 20 minutes 21 secondes.
Merci Jean-Roger Billon. Le grand bol d'air frais musical du matin, Roger Muntou, bonjour.
Salut Jacques, alors ce matin, tu vas aimer cette nouvelle. Écoute, les parents de Taylor Swift terrorisent ses équipes et les démissions s'accumulent. La superstar est pourtant toujours sous le contrôle radar de ses parents. Mais écoutons d'abord « I knew you were trouble ». Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone.
D'après les médias américains, les parents de Taylor Swift ne sont pas faciles à gérer pour les collaborateurs de la chanteuse, Roger.
Oui, Jacques, ils veulent contrôler les moindres détails de la vie de la chanteuse. Pourtant, séparés depuis un bon moment, le duo infernal serait très attentif à la carrière de sa fille et en aurait fait son occupation principale.
Taylor Swift, I knew you were trouble. Merci, Roger.
Have a good day, Jacques.
Oui, c'est ça. C'est vrai, je rentre me coucher après, Roger. Voilà, Roger Muntou de RM Show. Rendez-vous quotidien à 20h TU. Et voilà, avant de clore le monde aujourd'hui, un rappel des titres avec Anne Albertson.
Les Bissau-Guinéens sont sortis en masse hier pour élire un nouveau président ainsi que leurs députés. Aucun incident majeur n'a été signalé. En Centrafrique, de nouveaux heurts ont été signalés hier entre des militaires tchadiens de la MISCA et des anti-Balaka dans le nord du pays, alors que le contingent tchadien se retirait vers le Tchad avec des civils. Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 60 personnes hier dans plusieurs villages du nord-est du pays. Un responsable local a accusé Boko Haram. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en visite d'État à Dakar. Il doit s'entretenir ce lundi avec son homologue sénégalais Macky Sall. Et puis la Russie, sévèrement critiquée au Conseil de sécurité de l'ONU, réunie en urgence la nuit d'hier pour évoquer la situation dans l'est de l'Ukraine.
Merci Anne, Anne Albertson qui était également à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. C'était Jacques Aristide au micro. Merci de votre fidélité. Très bonne journée et très bonne semaine sur la VOA. Take care.